Alors la guerre a commencé.
Oui, ça y est. Les premiers missiles ont été...
C'est bien.
Vraiment.
Je n'aime pas voir la jeunesse désœuvrée. Ainsi, en ce 17 janvier, les petits gars ont pu enfin commencer à s'amuser.
Si l'on peut dire.
Quoi ? Ça ne vous amuserait pas, vous ?
Franchement, non.
Vous trouvez peut-être plus amusant de poursuivre des vieillards à 10 pieux avec un magnétophone ?
Poursuivre ? Mais nous ne vous poursuivons pas. C'est vous-même qui nous avez autorisé à venir.
Jamais ! C'est encore un coup de gravelin, ce chien.
Voyons, monsieur Tash, vous êtes parfaitement libre de dire non à votre secrétaire. C'est un homme dévoué qui respecte toutes vos volontés.
Vous dites n'importe quoi. Il me torture, mais il ne me consulte jamais. Cette infirmière, par exemple. C'est lui.
Allons, monsieur Tash, calmez-vous, reprenons notre entretien. Comment expliquez-vous le succès extraordinaire ?
Voulez-vous un Alexandra ?
Non, merci. Je disais donc, le succès extraordinaire de...
Attendez ! J'en veux un, moi.
Parenthèse alchimique.
Cette guerre toute fraîche m'a donné une furieuse envie d'Alexandra. C'est un breuvage si solennel.
Bien, monsieur Tash. Comment expliquez-vous le succès extraordinaire de votre œuvre à travers le monde ?
Je ne l'explique pas.
Allons, vous avez bien dû y réfléchir et imaginer des réponses.
Non.
Non. Vous avez vendu des millions d'exemplaires jusqu'en Chine. Et cela ne vous a pas fait réfléchir ?
Les usines d'armement vendent chaque jour des milliers de missiles à travers le monde. Et ça ne les fait pas réfléchir non plus ?
Cela n'a rien à voir.
Vous croyez ? Le parallélisme est pourtant frappant. Cette accumulation, par exemple. On parle de course aux armements. On devrait aussi dire « course aux littératures », c'est un argument de force comme un autre. Chaque peuple brandit son écrivain ou ses écrivains comme des canons. Tôt ou tard, on me brandira moi aussi. Et on fourbira mon prix Nobel.
Si vous l'entendez de la sorte, je suis d'accord, mais Dieu merci, la littérature est moins nocive.
Pas la mienne. La mienne est plus nocive que la guerre.
Ne seriez-vous pas en train de vous flatter ?
Il faut bien que je le fasse, puisque je suis le seul lecteur à même de me comprendre. Oui, mes livres sont plus nocifs qu'une guerre, puisqu'ils donnent envie de crever, alors que la guerre, elle, donne envie de vivre. Après m'avoir lu, les gens devraient se suicider.
Comment expliquez-vous qu'ils ne le fassent pas ?
Ça, en revanche, je l'explique très facilement. C'est parce que personne ne me lit. Au fond, c'est peut-être là aussi l'explication de mon extraordinaire succès. Si je suis célèbre, cher monsieur, c'est parce que personne ne me lit.
Paradoxal.
Au contraire, si ces pauvres gens avaient essayé de me lire, ils m'auraient pris en grippe, et pour se venger de l'effort que je leur aurais coûté, ils m'auraient jeté aux oubliettes. Alors qu'en ne me lisant pas, ils me trouvent reposant, et donc sympathique, et digne de succès.
Voici un raisonnement extraordinaire,
mais irréfutable. Tenez, prenons Homère. En voilà un qui n'a jamais été aussi célèbre. Or, vous en connaissez beaucoup, de vrais lecteurs, de la vraie Iliade et de la vraie Odyssée. Une poignée de philologues chauves, voilà tout. Car vous n'allez quand même pas qualifier de lecteurs les rares lycéens endormis qui ânonnent encore Homère sur les bancs de l'école en ne pensant qu'à Dépêche Mode ou au sida. Et c'est précisément pour cette excellente raison qu'Homère est la référence.
À supposer que ce soit vrai, vous trouvez cette raison excellente? Ne serait-elle pas plutôt navrant?
Excellente, je maintiens. N'est-il pas réconfortant pour un vrai, un pur, un grand, un génial écrivain comme moi de savoir que personne ne me lit, que personne ne souille de son regard trivial les beautés auxquelles j'ai donné naissance, dans le secret de mes tréfonds et de ma solitude?
Pour éviter ce regard trivial, n'est-il pas été plus simple de ne pas vous faire éditer du tout?
Trop facile. Non, voyez-vous, le sommet du raffinement, c'est de vendre des millions d'exemplaires et de ne pas être lu.
Sans compter que vous y avez gagné de l'argent.
Certainement. J'aime beaucoup l'argent.
Vous aimez l'argent, vous?
Oui, c'est ravissant. Je n'y ai jamais trouvé d'utilité, mais j'aime beaucoup le regarder. Une pièce de 5 francs. C'est joli, comme une pâquerette.
Cette comparaison ne me serait jamais venue à l'esprit.
Normal. Vous n'êtes pas prix Nobel de littérature, vous.
Au fond, ce prix Nobel ne démentirait-il pas votre théorie? Ne supposerait-il pas qu'au moins le jury du Nobel vous ait lu?
Rien n'est moins sûr. Mais pour le cas où les jurés m'auraient lu, croyez bien que ça ne change rien à ma théorie. Il y a tant de gens qui poussent la sophistication jusqu'à lire, sans lire. Comme des hommes grenouilles, ils traversent les livres sans prendre une goutte d'eau.
Oui, vous en aviez parlé au cours d'une entrevue précédente.
Ce sont les lecteurs grenouilles. Ils forment l'immense majorité des lecteurs humains. Et pourtant, je n'ai découvert leur existence que très tard. Je suis d'une telle naïveté. Je pensais que tout le monde lisait comme moi. Moi, je lis comme je mange. Ça ne signifie pas seulement que j'en ai besoin, ça signifie surtout que ça entre dans mes composantes et que ça les modifie. On n'est pas le même selon qu'on a mangé du boudin ou du caviar. On n'est pas le même non plus selon qu'on vient de lire du Kant, Dieu m'en préserve, ou du Queneau. Enfin, quand je dis « on », je devrais dire « moi » et quelques autres. Car la plupart des gens émergent de Proust ou de Simenon dans un état identique, sans avoir perdu une miette de ce qu'ils étaient et sans avoir acquis une miette supplémentaire. Ils ont lu. C'est tout. Dans le meilleur des cas, ils savent ce dont il s'agit. Ne croyez pas que je brode. Combien de fois ai-je demandé à des personnes intelligentes « Ce livre vous a-t-il changé ?» Et on me regardait, les yeux ronds, l'air de dire « Pourquoi voulez-vous qu'il me change ?»
Permettez-moi de m'étonner, monsieur Tache. Vous venez de parler comme un défenseur des livres à message, ce qui ne vous ressemble pas.
Vous n'êtes pas très malin, hein? Alors vous vous imaginez que ce sont les livres à message qui peuvent changer un individu, quand ce sont ceux qui les changent le moins? Non, les livres qui marquent et qui métamorphosent, ce sont les autres. Les livres de désir, de plaisir, les livres de génie, et surtout les livres de beauté. beauté. Tenez, prenons un grand livre de beauté, Voyage au bout de la nuit. Comment ne pas être un autre après l'avoir lu? Eh bien, la majorité des lecteurs réussissent ce tour de force sans difficulté. Ils vous disent après « Ah oui, Céline, c'est formidable !» et puis reviennent à leur mouton. Évidemment, Céline, c'est un cas extrême, mais je pourrais parler des autres aussi. On n'est jamais le même. Après avoir lu un livre, fut-il aussi modeste qu'un Léo Mallet? Ça vous change? Un Léo Mallet? On ne regarde plus les jeunes filles en imperméable comme avant quand on a lu un Léo Mallet. Ah, mais c'est très important! Modifier le regard, c'est ça, notre grande œuvre.
Ne croyez-vous pas que, consciemment ou non, chaque personne a changé de regard après avoir fini un livre?
Oh, non. Seule la fine fleur des lecteurs en est capable. Les autres continuent à voir les choses avec leur platitude originelle. Et encore, ici les questions des lecteurs, qui sont eux-mêmes une race très rare. La plupart des gens ne lisent pas. À ce sujet, il y a une citation excellente d'un intellectuel dont j'ai oublié le nom. Au fond, les gens ne lisent pas. Ou s'ils lisent, ils ne comprennent pas. Ou s'ils comprennent, ils oublient. Voilà qui résume admirablement la situation, vous ne trouvez pas?
En ce cas, n'est-il pas tragique d'être écrivain?
Si tragique il y a, il ne vient certainement pas de là. C'est un bienfait que de ne pas être lu. On peut tout se permettre.
Mais, enfin, au début, il a bien fallu qu'on vous lise, sans quoi vous ne seriez pas devenu célèbre.
Au début, peut-être, un petit peu.
J'en reviens donc à ma question de départ. Pourquoi ce succès extraordinaire? En quoi ce début répondait-il à une attente du lecteur?
Je ne sais pas. C'était les années 30. Il n'y avait pas de télévision, il fallait bien que les gens s'occupent.
Oui, mais pourquoi vous plutôt qu'un autre écrivain?
En fait, mon grand succès a commencé après la guerre. C'est marrant d'ailleurs, parce que je n'y ai pas du tout participé à cette rigolade. J'étais déjà presque impotent. Et puis, 10 ans plus tôt, on m'avait réformé pour obésité. En 45, a débuté la grande expiation. Confusément ou non, les gens ont senti qu'ils avaient des choses à se reprocher. Alors ils sont tombés sur mes romans, qui hurlaient comme des imprécations, qui regorgeaient d'ordures. Mais ils ont décidé que ce serait une punition à la démesure de leur bassesse.